Deux chapitres des malheurs de Sophie. Madame la comtesse de Ségur. L'écureuil. Un jour, Sophie se promenait avec son cousin Paul dans le petit bois de chêne qui était tout près du château. Ils cherchaient tous deux des glands pour en faire des paniers, des sabots, des bateaux. Tout à coup, Sophie sentit un gland qui lui tombait sur le dos. Pendant qu'elle se baissait pour le ramasser, un autre gland vint lui tomber sur le bout de l'oreille.
« Paul, Paul !»
dit-elle. « Viens donc voir ces glands qui sont tombés sur moi. Ils sont rongés. »«
Qui est-ce qui a pu les ronger là-haut ? Les souris ne grimpent pas aux arbres et les oiseaux ne mangent pas de glands. »
Paul prit les glands, les regarda, puis il leva la tête et s'écria.
« C'est un écureuil, je le vois. Il est tout en haut sur une branche, il nous regarde comme s'il se moquait de nous. »
Sophie regarda en l'air et vit un joli petit écureuil avec une superbe queue relevée en panache. Il se nettoyait la figure avec ses petites pattes de devant. De temps en temps, il regardait Sophie et Paul, faisait une gambade et sautait sur une autre branche.
« Que je voudrais avoir cet écureuil !» dit Sophie. « Comme il est gentil et comme je m'amuserais à jouer avec lui, à le mener promener, à le soigner !»«
Ce ne serait pas difficile de l'attraper !» dit Paul.
« Mais les écureuils sentent mauvais dans une chambre, et puis ils rongent tout !»«
Oh, je l'empêcherais bien de ronger, parce que j'enfermerais toutes mes affaires, et il ne sentirait pas mauvais, parce que je nettoierais sa cage deux fois par jour !»
Comment ferais-tu pour le prendre ?
J'aurais une cage un peu plus grande, dit Paul. Je mettrais dedans des noix, des noisettes, des amandes, tout ce que les écureuils aiment le mieux. J'apporterai la cage près de ce chêne, je laisserai la porte ouverte, j'y attacherai une ficelle, je me cacherai tout près de l'arbre et, quand l'écureuil entrerait dans la cage pour manger, je tirerai la ficelle pour fermer la porte et l'écureuil serait pris.
« Mais l'écureuil ne voudra peut-être pas entrer dans la cage. Cela lui fera peur. »«
Oh, il n'y a pas de danger. Les écureuils sont gourmands. Il ne résistera pas aux amandes et aux noix. »«
Attrape-le-moi, je t'en prie, mon cher Paul. Je serai si contente. »«
Mais ta maman, que dira-t-elle ? Elle ne voudra peut-être pas. »«
Elle le voudra !» Nous lui demanderons tant et tant tous les deux qu'elle consentira.
Les deux enfants coururent à la maison. Paul se chargea d'expliquer l'affaire à Madame de Réan, qui refusa d'abord, mais qui finit par consentir en disant à Sophie «
Je te préviens que ton écureuil t'ennuiera bientôt. Il grimpera partout, il rongera tes livres, tes joujoux, il sentira mauvais, il sera insupportable. »
« Oh non, maman, je vous promets de le si bien garder qu'il ne gâtera rien. »«
Je ne veux pas de ton écureuil au salon, ni dans ma chambre d'abord. Tu le garderas toujours dans la tienne. »«
Oui, maman, il restera chez moi, excepté quand je le mènerai promener. »
Sophie et Paul coururent tout joyeux chercher une cage. Ils en trouvèrent une au grenier qui avait servi jadis à un écureuil. Ils l'emportèrent, la nettoyèrent avec l'aide de la bonne et mirent dedans des amandes fraîches, des noix et des noisettes.
« À présent, allons vite porter la cage sous le chêne, pourvu que l'écureuil y soit encore. »«
Attends que j'attache une ficelle à la porte, » dit Paul. « Il faut que je la passe dans les barreaux pour que la porte se ferme quand je tirerai. »«
J'ai peur que l'écureuil ne soit parti. »«
Non !» dit Paul. Il va rester là ou tout auprès jusqu'à la nuit.
Là, c'est fini. Tire la ficelle pour voir si c'est bien.
Sophie tira. La porte se referma tout de suite. Les enfants, enchantés, allèrent porter la cage dans le petit bois. Arrivés près du chêne, ils regardèrent si l'écureuil y était. Ils ne virent rien.
ni les feuilles, ni les branches ne remuaient.
Les enfants, désolés, allaient chercher sous d'autres chaînes lorsque Sophie reçut sur le front un gland rongé comme ceux du matin.
« Il y est, il y est !» s'écria-t-elle. « Le voilà ! Je vois le bout de sa queue qui sort derrière cette branche touffue !»
En effet, l'écureuil, entendant parler, avança sa petite tête pour voir ce qui se passait.
« C'est bien, mon cher ami !» dit Paul. « Te voilà, tu seras bientôt en prison. Tiens, voilà des provisions que nous t'apportons. Sois gourmand, mon ami, sois gourmand. Tu verras comme on est puni de la gourmandise. »
Le pauvre écureuil, qui ne s'attendait pas à devenir un malheureux prisonnier, regardait d'un air moqueur en faisant aller sa tête de droite et de gauche. Il vit la cage que Paul posait à terre et jeta un œil d'envie sur les amandes et les noix. Quand les enfants se furent cachés derrière le tronc du chêne, il descendit deux ou trois branches, s'arrêta, regarda de tous côtés, descendit encore un peu et continua ainsi à descendre petit à petit jusqu'à ce qu'il fût sur la cage. Il passa une patte à travers les barreaux, puis l'autre. Mais comme il ne pouvait rien attraper et que les amandes lui paraissaient de plus en plus appétissantes, il chercha le moyen d'entrer dans la cage et il ne fut pas longtemps à trouver la porte. Il s'arrêta à l'entrée, regarda la ficelle d'un air méfiant, allongea encore une patte pour atteindre les amandes ou les noix, mais ne pouvant y parvenir, il se hasarda enfin à entrer dans la cage. À peine y fut-il que les enfants, qui regardaient du coin de l'œil et qui avaient suivi avec un battement de cœur les mouvements de l'écureuil, tirèrent la ficelle et l'écureuil fut pris. La frayeur lui fit jeter l'amande qu'il commençait à grignoter et il se mit à tourner autour de la cage pour s'échapper. Hélas, le pauvre petit animal devait payer cher sa gourmandise et rester prisonnier. Les enfants se précipitèrent sur la cage. Paul ferma soigneusement la porte et emporta la cage dans la chambre de Sophie. Elle courait en avant et appela sa bonne d'un air triomphant pour lui faire voir son nouvel ami. La bonne ne fut pas contente de ce petit élève.
« Que ferons-nous de cet animal ? » dit-elle. « Il va nous mordre et nous faire un bruit insupportable. » « Quelle idée avez-vous eue, Sophie, de nous embarrasser de cette vilaine bête ?»«
D'abord, ma bonne, elle n'est pas vilaine. L'écureuil est une très jolie bête. Ensuite, il ne fera pas de bruit du tout et il ne nous mordra pas. C'est moi qui le soignerai. »«
En vérité, je plains le pauvre animal. Vous le laisserez bientôt mourir de faim. »«
Mourir de faim ? Certainement non !» Je lui donnerai des noisettes, des amandes, du pain, du sucre, du vin.
Voilà un écureuil qui sera bien nourri. Le sucre lui gâtera les dents et le vin l'enivrera.
Un écureuil ivre, dit Paul. Ce sera bien drôle. Pas du tout, monsieur. Mon écureuil ne sera pas ivre, dit Sophie. Il sera très raisonnable.
Nous verrons cela. Je vais d'abord lui apporter du foin pour qu'il puisse se coucher. Il a l'air tout effaré. Je ne crois pas qu'il soit content de s'être laissé prendre.
Je vais le caresser pour l'habituer à moi, dit Sophie, et pour lui faire voir qu'on ne lui fera pas de mal.
Sophie passa sa main dans la cage. L'écureuil, effrayé, se sauva dans un coin. Sophie allongea la main pour le saisir. Au moment où elle allait le prendre, l'écureuil lui mordit le doigt. Sophie se mit à crier et retira promptement sa main pleine de sang. La porte restant ouverte, l'écureuil se précipita hors de sa cage et se mit à courir dans la chambre. La bonne et Paul coururent après, mais quand ils croyaient l'avoir attrapé, l'écureuil faisait un saut, s'échappait et continuait à galoper dans la chambre. Sophie, oubliant son doigt qui saignait, voulut les aider. Ils continuèrent leur chasse pendant une demi-heure. L'écureuil commençait à être fatigué et
il allait être pris lorsqu'il aperçut la fenêtre qui était restée ouverte. Aussitôt, il s'élança dessus, grimpa le long du mur en dehors de la fenêtre et se trouva sur le toit. Sophie, Paul et la bonne descendirent au jardin en courant. Levant la tête, ils aperçurent l'écureuil perché sur le toit, à moitié mort de fatigue et de peur.
« Que faire, ma bonne, que faire ?» s'écria Sophie.
« Il faut le laisser, » dit la bonne. « Vous voyez bien qu'il vous a déjà mordu. »
« C'est parce qu'il ne me connaît pas encore, ma bonne. Mais quand il verra que je lui donne à manger, il m'aimera. »
« Je crois qu'il ne t'aimera jamais, » dit Paul. « Parce qu'il est trop vieux pour s'habituer à rester enfermé. Il aurait fallu en avoir un tout jeune. »«
Oh, Paul, jette-lui des balles, je t'en prie, pour le faire descendre. Nous le rattraperons et nous le renfermerons. »
« Je veux bien, mais je ne crois pas qu'il veuille descendre. »
Et voilà Paul qui va chercher un gros ballon et qui le lance si adroitement qu'il attrape l'écureuil à la tête. Le ballon descend en roulant et, après lui, le pauvre écureuil. Tous deux tombent à terre, le ballon bondit et rebondit, mais l'écureuil se brise en touchant à terre et reste mort. La tête ensanglantée, les reins et les pattes cassées. Sophie et Paul courent pour le ramasser et restent stupéfaits devant le pauvre animal mort.
« Méchant Paul !» dit Sophie. « Tu as fait mourir mon écureuil !»«
C'est ta faute !» dit Paul. « Pourquoi as-tu voulu que je le fisse descendre en lui lançant des balles ?»
« Il fallait seulement lui faire peur, » dit Sophie, « et non le tuer. »«
Mais je n'ai pas voulu le tuer, le ballon l'a attrapé, je ne croyais pas être si adroit. »«
Tu n'es pas adroit, tu es méchant, va-t'en, je ne t'aime plus du tout. »«
Et moi je te déteste, » dit Paul. « Tu es plus sotte que l'écureuil, je suis enchantée de t'avoir empêché de le tourmenter. »«
Vous êtes un mauvais garçon, monsieur. » ajouta Sophie. « Je ne jouerai jamais avec vous. Je ne vous demanderai jamais rien. »«
Tant mieux, mademoiselle. Je ne serai que plus tranquille et je n'aurai plus à me creuser la tête pour vous aider à faire des sottises. »«
Voyons, mes enfants, » dit la bonne. « Au lieu de vous disputer, avouez que vous avez agi tous deux sans réflexion et que vous êtes tous deux coupables de la mort de l'écureuil. Pauvre bête. Il est plus heureux que s'il était resté vivant, car il ne souffre plus, du moins. Je vais appeler quelqu'un pour qu'on l'emporte et qu'on le jette dans quelque fossé. Et vous, Sophie, montez dans votre chambre et trempez votre doigt dans l'eau. Je vais vous y rejoindre. » Sophie s'en alla, suivie de Paul, qui était un bon petit garçon sans rancune. De sorte qu'au lieu de bouder, il aida Sophie à verser de l'eau dans une cuvette et à y tremper sa main. Quand la bonne monta, elle enveloppa le doigt de Sophie de quelques feuilles de laitue et d'un petit chiffon. Les enfants étaient un peu honteux, en rentrant au salon pour dîner, d'avoir à raconter la fin de leur aventure de l'écureuil. Les papas et les mamans se moquèrent d'eux. La cage de l'écureuil fut reportée au grenier. Le doigt de Sophie lui fit mal encore pendant quelques jours, après lesquels elle ne pensa plus à l'écureuil, que pour se dire qu'elle n'en aurait jamais.
Thank you.
La tortue. Sophie aimait les bêtes. Elle avait déjà eu un poulet, un écureuil, un chat, un âne. Sa maman ne voulait pas lui donner un chien, de peur qu'il ne devînt enragé, ce qui arrive assez souvent. « Quelle bête pourrais-je donc avoir ?» demanda-t-elle un jour à sa maman. « J'en voudrais une qui ne pût pas me faire de mal, qui ne pût pas se sauver et qui ne fût pas difficile à soigner. »
« Alors je ne vois que la tortue qui puisse te convenir. »«
C'est vrai cela ? C'est très gentil une tortue. Et il n'y a pas de danger qu'elle se sauve.
» Et si elle voulait se sauver, tu aurais toujours le temps de la rattraper.
Achetez-moi une tortue, maman, achetez-moi une tortue.
Quelle folie! C'est en plaisantant que je te parlais d'une tortue.
C'est une affreuse bête, lourde, laide, ennuyeuse.
Je ne pense pas que tu puisses aimer un si sot animal.
Oh maman, je vous en prie, elle m'amusera beaucoup. Je serai bien sage pour la gagner.
Puisque tu as envie d'une si laide bête, je puis bien te la donner, mais à deux conditions. La première, c'est que tu ne la laisseras pas mourir de faim. La seconde, c'est qu'à la première grosse faute que tu feras, je te l'ôterai.
J'accepte les conditions, maman, j'accepte. Quand aurai-je ma tortue ?
Tu l'auras après-demain. Je vais écrire ce matin même à ton père qui est à Paris de m'en acheter une. Il l'enverra demain soir par la diligence. Et tu l'auras après-demain, de bonne heure.
Je vous remercie mille fois, maman. Paul va précisément arriver demain. Il restera 15 jours avec nous. Il aura le temps de s'amuser avec la tortue.
Le lendemain, Paul arriva à la grande joie de Sophie. Quand elle lui annonça qu'elle attendait une tortue, Paul se moqua d'elle et lui demanda ce qu'elle ferait d'une si affreuse bête.
« Nous lui donnerons de la salade, nous lui ferons un lit de foin, nous la porterons sur l'herbe, nous nous amuserons beaucoup, je t'assure !»
Le lendemain, la tortue arriva. Elle était grosse comme une assiette, épaisse comme une cloche à couvrir les plats. Sa couleur était laide et sale. Elle avait rentré sa tête et ses pattes.
« Dieu que c'est laid !» s'écria Paul.
« Moi, je la trouve assez jolie !»
répondit Sophie, un peu piquée. « Elle a surtout une jolie physionomie et un sourire gracieux !» dit Paul.
« Laisse-nous tranquille, tu te moques de tout !»«
Ce que j'aime en elle, c'est sa jolie tournure, sa marche légère !» continua Paul. « Tais-toi, te dis-je. Je vais emporter ma tortue, si tu te moques d'elle.
Emporte, emporte, je t'en prie. Ce n'est pas son esprit que je regretterai. Sophie avait bien envie de se jeter sur Paul et de lui donner une tape. Mais elle se souvint de sa promesse et de la menace de sa maman. Et elle se contenta de lancer à Paul un regard furieux. Elle voulut prendre la tortue pour la porter sur l'herbe, mais elle était trop lourde. Elle la laissa retomber. Paul, qui se repentait de l'avoir taquinée, accourut pour l'aider. Il lui donna l'idée de mettre la tortue dans un mouchoir et de la porter à deux, tenant chacun un bout du mouchoir. Sophie, que la chute de la tortue avait effrayée, consentit à se laisser aider par Paul. Quand la tortue sentit l'herbe fraîche, elle sortit ses pattes, puis sa tête, et se mit à manger l'herbe. Sophie et Paul la regardaient avec étonnement.
« Tu vois bien, dit Sophie, que ma tortue n'est pas si bête ni si ennuyeuse. »«
Non, c'est vrai, répondit Paul, mais elle est bien laide. »«
Pour cela, dit Sophie, j'avoue qu'elle est laide, elle a une affreuse tête. »«
Et d'horribles pattes, ajouta Paul. »
Les enfants continuèrent à soigner la tortue pendant 10 jours, sans que rien d'extraordinaire arrivât. La tortue couchait dans un cabinet sur du foin. Elle mangeait de la salade, de l'herbe et paraissait heureuse. Un jour, Sophie eut une idée. Elle pensa qu'il faisait chaud
que la tortue devait avoir besoin de se rafraîchir et qu'un bain dans la mare lui ferait du bien. Elle appela Paul et lui proposa de baigner la tortue.
La baigner ?
Où donc ?
Dans la mare du potager, dit Sophie. L'eau y est fraîche et claire.
Mais je crains que cela ne lui fasse du mal, dit Paul.
Au contraire, les tortues aiment beaucoup à se baigner. Elle sera enchantée.
Comment sais-tu que les tortues aiment à se baigner ? Je crois, moi, qu'elles n'aiment pas l'eau.
Je suis sûre qu'elles l'aiment beaucoup, dit Sophie. Est-ce que les écrevisses n'aiment pas l'eau ? Est-ce que les huîtres n'aiment pas l'eau ? Ces bêtes-là ressemblent un peu à la tortue.
Tiens, c'est vrai, dit Paul. D'ailleurs, nous pouvons essayer.
Et ils allèrent prendre la pauvre tortue qui se chauffait tranquillement au soleil sur l'herbe. Ils la portèrent à la mare et la plongèrent dedans. Aussitôt que la tortue sentit l'eau, elle sortit précipitamment sa tête et ses pattes pour tâcher de s'en tirer.
Ses pattes gluantes ayant touché aux mains de Paul et de Sophie, tous deux la lâchèrent et elle tomba au fond de la mare.
Les enfants, effrayés, coururent à la maison du jardinier pour lui demander de repêcher la pauvre tortue. Le jardinier, qui savait que l'eau la tuerait, courut vers la mare. Elle n'était pas profonde. Il se jeta dedans après avoir ôté ses sabots et retroussé les jambes de son pantalon. Il voyait la tortue qui se débattait au fond de la mare et il la retira promptement. Il la porta ensuite près du feu pour la sécher. La pauvre bête avait rentré sa tête et ses pattes et ne bougeait plus. Quand elle fut bien chauffée, les enfants voulurent la reporter sur l'herbe au soleil.
« Attendez, monsieur, mademoiselle, dit le jardinier, je vais vous la porter. Je crois bien qu'elle ne mangera guère, ajouta-t-il.
« Est-ce que vous croyez que le bain lui a fait du mal ?
Demanda Sophie.
« Certainement que oui. » Il lui a fait mal. L'eau ne va pas aux tortues.
Croyez-vous qu'elle sera malade ?
Demanda Paul.
Malade, je n'en sais rien, mais je crois bien qu'elle va mourir.
Oh, mon Dieu ! S'écria Sophie.
Ne t'effraie pas, chuchota Paul. Il ne sait ce qu'il dit. Il croit que les tortues sont comme les chats qui n'aiment pas l'eau.
Ils étaient revenus sur l'herbe. Le jardinier posa doucement la tortue et retourna à son potager. Les enfants la regardaient de temps en temps, mais elle restait immobile. Ni sa tête ni ses pattes ne se montraient. Sophie était inquiète. Paul la rassurait. « Il faut la laisser faire comme elle veut, » dit-il. « Demain, elle mangera et se promènera. » Ils la reportèrent vers le soir sur son lit de foin et lui mirent des salades fraîches. Le lendemain, quand ils allèrent la voir, les salades étaient entières. La tortue n'y avait pas touché.
« C'est singulier, » dit Sophie. « Ordinairement, elle mange tout dans la nuit. »«
Portons-la sur l'herbe, » répondit Paul. « Elle n'aime peut-être pas la salade. »
Paul, qui était inquiet, mais qui ne voulait pas l'avouer à Sophie, examinait attentivement la tortue, qui continuait à ne pas bouger.
« Laissons-la, » dit-il à Sophie. « Le soleil va la réchauffer et lui faire du bien. »« Est-ce que tu crois qu'elle est malade, Paul ?»«
Je crois que oui. »
Il ne voulait pas ajouter « Je crois qu'elle est morte », comme il commençait à le craindre. Pendant 2 jours, Paul et Sophie continuèrent à porter la tortue sur l'herbe, mais elle ne bougeait pas, et ils la retrouvaient toujours comme ils l'avaient posée. Les salades qu'ils lui mettaient le soir se retrouvaient entières le lendemain. Enfin, un jour, en la mettant sur l'herbe, ils s'aperçurent qu'elle sentait mauvais.
« Elle est morte, » dit Paul. « Elle sent déjà mauvais. »
Ils étaient tous deux près de la tortue, se désolant et ne sachant que faire d'elle, quand Madame de Réan arriva près d'eux.
« Que faites-vous là, mes enfants ?
Vous êtes immobile comme des statues près de cette tortue.
Qui est aussi immobile que vous ?
Ajouta-t-elle en se baissant pour la prendre. En l'examinant, Madame de Réan s'aperçut qu'elle sentait mauvais.
« Mais elle est morte !»
s'écria-t-elle en la rejetant par terre.
« Elles sont déjà mauvais !»«
Oui, ma tante, je crois qu'elle est morte. »«
De quoi a-t-elle pu mourir ? Ce n'est pas de faim puisque vous la mettiez tous les jours sur l'herbe. C'est singulier qu'elle soit morte sans qu'on sache pourquoi. »
« Je crois, maman, que c'est le bain qui l'a fait mourir. »«
Un bain ? Qu'est-ce qui a imaginé de lui faire prendre un bain ?»«
C'est moi, maman. Je croyais que les tortues aimaient l'eau fraîche et je l'ai baignée dans la mare du potager. »« Elle est tombée au fond, nous n'avons pas pu la rattraper. C'est le jardinier qui l'a repêchée. Elle est restée longtemps dans l'eau. »«
Ah, c'est une de tes idées !» Tu t'es puni toi-même. Au reste, je n'ai rien à te dire. Seulement, souviens-toi qu'à l'avenir, tu n'auras aucun animal à soigner, ni à élever. Toi et Paul, vous les tuez ou vous les laissez mourir tous. Il faut jeter cette tortue, ajouta Madame de Réan. Lambert, venez prendre cette bête qui est morte et jetez-la dans un trou quelconque.
Ainsi finit la pauvre tortue, qui fut le dernier animal qu'eut Sophie. Quelques jours après, elle demanda à sa maman si elle ne pouvait pas avoir de charmant petit cochon d'Inde qu'on voyait à la ferme. Madame de Réan refusa. Il fallut bien obéir. Et Sophie vécut seule avec Paul, qui venait souvent passer quelques jours avec elle.